discerner avec la Vierge Marie. Et je trouve que c'est un grand enjeu parce que, en fait, au fond, derrière, la question, une des questions que vous pouvez retenir, c'est qui est la Vierge Marie pour moi ? C'est un peu ça dans notre vie chrétienne. Souvent, c'est un peu, enfin, on pose une petite statue sur une étagère. On a à la limite un chapelet dans la poche, ce qui est déjà très bien. On dit « Je vous salue Marie » de temps en temps. Mais est-ce que vraiment la Vierge Marie est quelqu'un à qui je m'adresse dans ma prière ? On a eu l'occasion, avec les religieux en octobre, d'avoir une conférence du Père Cantal à Messa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est prédicateur à la maison pontificale à Rome. Et il nous a parlé justement de la manière dans notre prière de nous adresser à Jésus. Est-ce qu'on parle de Jésus comme d'un personnage à qui je fais référence, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ou est-ce que je parle à Jésus comme une personne ? Je m'adresse à Jésus. Eh bien, j'ai envie de faire pareil, enfin, de vous poser la même question pour la Vierge Marie. Est-ce que pour vous, la Vierge Marie, c'est un personnage, la maman de Jésus, dont on parle dans l'Évangile, surtout au début de l'Évangile de Luc et de Matthieu, parce qu'en fait, on n'en parle pas trop, voilà, quelqu'un que l'Église donne comme modèle ? Ou est-ce que c'est vraiment une personne à qui je m'adresse ? Et je crois que c'est une bonne question donc, que vous pouvez garder dans votre petit coin. Donc c'est pas de moi, c'est du Père Cantal à Messa. Il nous a donné un exemple, par exemple, de personnage dont on parle. On parle de Napoléon. Donc est-ce que Jésus, Marie et Napoléon, c'est sur la même étagère ? Ou est-ce que vous vous adressez à Jésus et à Marie comme à des personnes vivantes ? Et ça, c'est une bonne question à se poser dans notre prière personnelle. Donc c'est un peu l'enjeu de ce petit topo, c'est de nous aider à redécouvrir que Marie nous est donnée, est vivante, est notre mère du ciel. Et ça fait un peu les grands... c'est notre maman du ciel, on entend dans les prières pieuses. Mais est-ce que c'est une réalité pour nous ? C'est pas juste voilà, quelque chose de dévot, d'une belle dévotion. Est-ce que vraiment Marie est réelle pour moi ? Et on a de la chance parce qu'on est dans le temps de Noël. Et on vit ce temps de Noël particulièrement avec Marie. Et ce soir, nous entrons dans cette fête de la Sainte Famille, où on se met spécialement en présence de Marie, de Jésus et de Joseph. Et je trouve que c'est une belle lumière pour nous, pour redécouvrir la place de Marie dans ma vie. Ce n'est pas dans notre vie en général. La vie de la religieuse qui s'habille comme la Vierge Marie. J'ai pas un voile bleu, mais j'en rêve pas non plus d'avoir un voile bleu. Mais il y a quelque chose de, vous voyez, enfin, dans ma vie de reconsacrée, c'est sûr que la Vierge Marie a une place très importante, mais elle nous est donnée à chacun comme mère. Et alors aujourd'hui, dans ce thème, on va essayer de regarder un peu différentes étapes de la Vierge Marie, en raccourci, pour comprendre son attitude intérieure par rapport aux choix qu'elle a dû faire. Parce qu'elle a dû poser des choix, la Vierge Marie. Tout n'était pas écrit pour elle depuis l'Immaculée Conception, comme un programme informatique où elle n'avait pas à choisir. Et de toute façon, elle était prévue depuis toute éternité d'être la mère de Jésus. Donc voilà, pas de défaut, zéro défaut, zéro virus, aucun problème, ça se déroule, nickel chrome. Ben, en fait, ce n'était pas ça. Elle avait la liberté de faire des choix, comme vous et moi. Donc elle avait un grand privilège d'être immaculée, mais elle a quand même eu des choix à faire. Et donc ça nous intéresse, parce qu'elle nous est donnée aussi pour ça. C'est sûr, on n'est pas la Vierge Marie, mais comme elle est spirituellement et divinement notre mère, elle a beaucoup à nous donner, et elle désire aussi nous éduquer. Donc elle nous éduque déjà dans sa manière, vous voyez, comme un enfant regarde sa maman faire. Et les petites filles, on a souvent aimé regarder notre maman faire les tartes aux pommes. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris à faire les tartes aux pommes. Voilà, c'est en regardant maman faire des tartes aux pommes. Bah, en regardant la Vierge Marie faire ses choix, c'est pas forcément le cas de toutes les mamans, mais bon. En regardant la Vierge Marie faire ses choix, on peut aussi apprendre à faire de bons choix. Alors ça commence par un moment très caché de la vie de la Vierge Marie, qui, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas écrit dans la parole de Dieu, donc... comment vous savez, ça reste quand même une fête traditionnelle que l'Église nous donne à méditer, qui est la fête de la présentation de Marie au Temple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fête. Est-ce que vous savez à quel moment de la vie de la Vierge Marie ça fait allusion ? C'est le tout début, alors... Quoi ? Oui, on ne sait pas exactement l'âge qu'elle avait. L'âge de raison pour une sainte petite fille. Donc voilà, en gros. La tradition dit que dès que Marie a eu sa conscience éveillée, elle a désiré se consacrer entièrement au Seigneur. En fait, on comprend ça rétroactivement, si on peut dire ça, quand on lit entre les lignes des réponses de la Vierge Marie à l'Annonciation. Donc on va prendre l'Annonciation, c'est l'épisode qui suit la présentation, enfin, avec quelques années d'intervalle. Donc c'est Luc chapitre 1, vous avez déjà peut-être lu les passages que Pierre-Marie nous a conseillé de lire ce matin, donc ça en faisait partie. Chapitre 1, versets 26 et suivants. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» On connaît, je pense, la plupart d'entre vous connaissez ces textes par cœur. Mais pour revenir à la présentation de Marie, en fait, la tradition nous dit, c'est quand même étonnant, Marie répond, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» alors qu'on vient de nous dire qu'elle est fiancée à Joseph. Et naturellement, logiquement, elle aurait pu se dire, « Bon, bah, c'est bon. » Je vais marier avec Joseph, donc mon premier enfant, voilà, ça va être l'enfant. Non, c'est pas du tout comme ça qu'elle réagit. Elle se dit pas, c'est bon, j'ai compris, comment ça va se passer, logiquement, c'est comme ça. La manière dont elle répond, dans la méditation de l'Église, hein, depuis 2000 ans, l'Église a compris que là se trouvait la réalité de la consécration de Marie. Pour que Marie réponde ça, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? C'est qu'elle s'est consacrée à Dieu, elle s'est offerte complètement au Seigneur. Donc il y a cet acte étonnant de la Vierge Marie qui, à l'aube de sa vie consciente, a décidé de se donner librement au bon vouloir de Dieu. En plus, c'était très étonnant du temps de Marie, parce que toute femme juive, et c'est encore le cas maintenant, c'est une bénédiction d'avoir des enfants parce qu'elle peut devenir la mère du Messie. Et donc Marie, sous le souffle de sa grâce propre de Marie, sous le souffle de l'Esprit-Saint, décide de se consacrer à Dieu pour le bon plaisir de Dieu. Et dans son cœur, ça veut dire ne pas avoir d'enfants. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Je me suis offerte à Dieu. Donc elle était déjà, vous voyez, enfin c'est étonnant, enfin c'est impressionnant, la liberté de Marie par rapport à sa tradition. Et incroyable, elle va devenir la mère du Messie, alors que justement, elle désirait se consacrer complètement dans la virginité à Dieu. Donc vous voyez, c'est beau de voir comment le Seigneur, enfin on pourrait développer ça 3 heures, mais vient accomplir dans le cœur de Marie la promesse faite au peuple d'Israël à travers ce désir de Marie d'être toute à Dieu. Et c'est là que c'est une première chose que j'ai notée en réfléchissant un peu à ce qu'on pouvait tirer pour nous, pour ce thème de notre session, de notre retraite. Marie s'offre à Jésus, enfin s'offre pas, je dis pas Jésus comme tel pour l'instant, mais s'offre à Dieu dans sa virginité, et elle se laisse surprendre par l'inattendu. Dans son cœur, elle avait décidé d'être toute à Dieu dans sa virginité. Et l'ange Gabriel vient lui dire de la part de Dieu qu'elle sera mère. C'est exactement l'inverse, vous voyez, de ce qu'elle portait dans son cœur. Mais dans une grande disponibilité. Donc on va continuer le texte parce que la fin est importante. Enfin, tout est important. Mais... Donc Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. » Et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On pourrait, enfin, l'Annonciation, c'est un texte très dense, très riche. Donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Je vais juste noter quelques aspects, parce que j'aimerais pouvoir balayer les autres aspects aussi de la vie de Marie. Mais c'est un texte source. Vous pouvez toujours, on peut avoir l'impression de le connaître par cœur, mais vous pouvez toujours revenir à ce texte et méditer juste un verset. Et le Seigneur peut vous donner des lumières nouvelles à chaque fois. Donc là, l'ange Gabriel vient d'annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère du Fils du Très-Haut. Et Marie se dit pas, elle dit, voilà, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. Donc elle se fait toute disponible selon la parole de l'ange et pas selon ce qu'elle a compris. Elle ne tire pas les conclusions de ce que l'ange vient de lui dire en disant « Ah ok, je vais être la mère de Dieu. » Parce que c'est ça quand même. Le Seigneur va avoir un fils dont tu seras la mère. Mais si vous tirez les conclusions, logiques, rationnelles, elle pourrait se regarder en disant « Ah, mais ça veut dire que c'est... » Voilà, enfin, ça passe par moi tout ça, là. C'est quand même incroyable. Non. Elle ne fait pas un retour du tout sur elle-même. Elle est la servante du Seigneur. Elle ne comprend pas tout. « Qu'il se fasse pour moi selon ta parole, selon ce que toi tu as dit et pas selon ce que moi j'ai compris. » Et là, Marie est mère pour nous. Parce qu'on est souvent... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je filtre, quoi. En fonction de ce que j'ai compris, de ce que l'autre me dit, ou de ce que la parole me dit. Vous voyez, j'interprète. C'est selon ce que moi je comprends de ce que toi tu me dis. Mais Marie, elle ne dit pas ça. Marie, elle se fait relative à la parole. Elle n'a pas tout compris. Enfin, elle a compris une partie, sûrement, qu'elle allait devenir enceinte. Mais c'est un milieu, c'est un mystère. Vous voyez, c'est quelque chose, il va lui falloir du temps. Vous voyez, parce qu'au niveau minutage, on n'a pas le timing là, mais l'ange qui entre, et on peut se faire un film. Hein. L'ange entre, il met quelques secondes à arriver, voilà, Marie est là, voilà, on peut faire la scène, vous voyez. Même si vous faites la scène, ça ne prend pas longtemps. Puis après, l'ange la quitta, on le sait ça, l'ange la quitta, c'est écrit là. Et c'est tout. L'ange est arrivé, il a parlé, Marie a posé sa question, il a répondu. Elle a répondu, je suis la servante du Seigneur, et l'ange s'en va. Terminé, plus d'anges. Terminé, fini pour toute la vie. Elle aura plus d'anges qui viendra lui dire, rappelle-toi ce que je t'ai dit au début de l'histoire. Donc elle a toute sa vie méditer ces paroles de l'ange. Donc elle a eu vous pourriez me dire, oui, mais nous on n'est pas Marie, on n'a pas des anges qui viennent, même une seule fois dans notre vie, nous dire, alors voilà ta mission. Voilà. Mais on a Marie qui a vécu ça pour nous et qui peut nous donner des clés pour vivre à notre taille la mission que le Seigneur nous confie. Et déjà réaliser que ce que Marie a reçu, c'est une fois. Et que le reste de sa vie, elle a vécu sur ce moment-là. Donc c'est un des versets que Luc répète plusieurs fois dans l'Évangile. Et Marie méditait cette parole en son cœur. Méditait ces événements dans son cœur. Donc gardez ça aussi comme attitude de Marie. Marie a reçu la parole, elle est relative à la parole, et elle la médite dans son cœur, elle la garde. Donc la première parole qu'elle garde, c'est la parole de l'ange. Ce grand mystère, voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Donc c'est vraiment la promesse du Messie. Hein. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Donc la gloire du Messie est annoncée là. Il y a quelque chose d'un règne sans fin. Tout est rose. On pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, quelques petites attitudes là de la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Elle se laisse surprendre par le Seigneur qui vient comme prendre à contre-pied le désir qu'elle avait exprimé depuis sa tendre enfance. Et elle se laisse, elle laisse le Seigneur faire en son cœur, même si ça vient contrecarrer ses plans. Et elle se met donc relative à la parole. Elle ne cherche pas à la mesurer avec ce qu'elle a compris. Et juste tout de suite après, à l'invitation de l'ange, hein, l'ange lui annonce que sa vieille cousine Élisabeth est enceinte et qu'elle en est à son 6e mois, donc la maman de Jean-Baptiste. Et Marie comprend. L'ange lui dit pas, bon, bah maintenant tu peux aller passer 3 mois chez Élisabeth, comme ça, ça te permettra de réfléchir, à l'écart de Joseph, tranquille, voilà. Non, il lui dit pas tout ça. Il lui dit juste, il l'informe. Voilà. Et Marie, dans sa disponibilité, entend l'appel à aller se mettre au service de sa cousine. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et là, nous sommes témoins d'une parole de connaissance. Il y a un de mes frères qui nous disait ça récemment. Là, on voit bien ça. Élisabeth, elle est prise par un charisme particulier, un don de connaissance. Marie n'avait parlé à personne. On y reviendra à ça parce qu'elle a gardé dans son cœur l'annonce que l'ange lui a faite. Elle a gardé ce secret pour elle. Elle n'est pas du tout allée en parler à Joseph. Hein. On se rend compte après coup. Joseph, alors que c'était le plus concerné par l'histoire quand même, a priori, Marie lui dit rien. Elle s'en va voir sa cousine. Et c'est quand elle revient de chez Élisabeth que Joseph comprend. Voilà, parce que, voilà, enfin, bref, ça se voit, quoi. Mais elle lui avait rien dit. Donc Marie a vraiment gardé ce secret. C'était un secret entre le Seigneur et Marie. Elle rentre chez Élisabeth. Et voilà qu'Élisabeth, de but en blanc, sans préavis, enfin, Marie n'avait encore rien dit, elle avait juste salué. Élisabeth s'écrie. « Béni es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Ça ne se voyait pas encore à ce moment-là. « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Vous voyez, c'est fort. Pour Marie, elle qui n'avait encore rien dit à personne, qui devait être encore sous le choc de cette rencontre avec l'ange et de l'annonce, de ce mystère incroyable qui se passait en elle, sa cousine exprime le mystère qu'elle porte. Vous voyez, il y a comme une confirmation très forte pour la Vierge Marie que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lui donne par la bouche de sa cousine Élisabeth. Et ça, c'est très beau de voir ça, comment le Seigneur utilise Élisabeth pour confirmer Marie, pour lui dire « Non, t'as pas rêvé, t'as pas eu d'hallucination, c'était pas un rêve bizarre où t'as rêvé qu'un ange venait t'annoncer que t'allais être enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Non, non, c'est vrai. » Parce que, voilà, il n'y a que le Seigneur qui pouvait mettre ses paroles dans la bouche d'Élisabeth. Donc on voit bien là la miséricorde du Seigneur qui passe par d'autres personnes pour confirmer le mystère qui se passe dans Marie. Alors, je vous laisse faire toutes les analogies pour vous, hein, mais le Seigneur aime passer par les autres, comme ça, pour nous-mêmes. Donc il nous parle aussi, personnellement, par la bouche des autres, qui peuvent, de manière simple, parfois à leur insu, là Élisabeth savait ce qu'elle disait, hein, mais parfois des personnes peuvent avoir faire telle ou telle remarque ou commentaires de la parole de Dieu qui viennent confirmer en nous quelque chose de très profond et de très intime que nous portons dans notre prière ou dans nos désirs. Donc là aussi, c'est très beau de voir comment Marie nous montre, vous voyez, cette vie dans l'esprit. Et le fruit de cette rencontre entre ces deux femmes, c'est la louange. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » C'est là que Marie chante le Magnificat, cette prière que l'Église universelle chante tous les soirs à Vêpres, que nous allons chanter tout à l'heure, qui est cette louange au Seigneur que Marie porte dans son cœur et que spontanément, vous voyez, c'est impressionnant, elle n'a pas... quand on prend l'Évangile comme il est, Marie n'a pas sorti ses petites notes de sa poche en disant « Ah oui, tiens, j'avais préparé cette prière là depuis longtemps, ça tombe bien, c'est le moment. Voilà. » Elle n'avait pas prévu qu'Élisabeth lui dirait ça. C'est ça. Ce qui est très beau, c'est qu'on voit, c'est la louange qu'elle portait dans son cœur, qu'elle pouvait peut-être avoir chanté sur les montagnes, vous voyez, en allant chez Élisabeth. Elle portait cette louange en elle. Quand vous étudiez un peu de près le Magnificat, vous vous rendez compte que c'est un patchwork de paroles de l'Ancien Testament que Marie a composé, a tissé à sa manière. Il n'y a quasiment rien qui soit purement de Marie, mais l'ordonnancement, la manière de les mettre ensemble est de Marie, et de l'Esprit-Saint avec elle. Mais il y a vraiment, c'est pétri de la parole de Dieu. Donc là, on voit bien le fruit de la prière de Marie qui médite la parole de Dieu. Vous voyez, elle est tellement pétrie de la parole que la parole jaillit spontanément de son cœur, dans la joie, de sa manière, d'une manière très personnelle et en même temps avec la parole de Dieu lui-même. Donc Marie qui porte Jésus, la parole de Dieu incarnée, exprime sa louange avec la parole de Dieu. Donc la louange, vous voyez, c'est aussi une très belle manière de voir comment Marie nous porte. Et Marie n'est pas cette femme froide et timide, réservée, coincée, là, à qui, en général, toute fille bien née n'a pas tellement envie de ressembler a priori, et quand on a cette image un peu d'Épinal dans la tête. En fait, Marie ne correspond pas à cette image d'Épinal. Marie est une femme vivante, pleine d'initiative et de surprise. Vous voyez, elle est capable de chanter ce chant comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose elle se laisse traverser par l'Esprit-Saint de manière très simple et très vivante. Il n'y a rien de coincé. Rien de coincé. Donc Marie se met au service d'Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors on ne nous raconte pas les retrouvailles de Jésus, de Joseph et de Marie. Ça reste dans leur intimité. Mais j'ai souvent une pensée émue pour Joseph. voilà. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour Saint Joseph, parce que lui n'était pas immaculé. Bon, il a trouvé la perle, quand même. Enfin, il avait repéré, Marie depuis longtemps. Mais il a quand même été bien secoué. Et il s'est laissé conduire par l'Esprit-Saint pour le bien de Marie et de Jésus. Et ce qui est très beau, on voit après... au moment de la naissance de Jésus et de la fuite en Égypte, notamment, Marie se met complètement sous l'autorité de Joseph. Marie est concentrée sur le mystère de Jésus. Vous voyez, toute femme enceinte, vous n'êtes pas encore concernée, mais ça viendra, on espère. Enfin, si, Clémence peut nous raconter ça. Vu chez mes sœurs de sang et mes amis, une femme qui porte la vie, elle est concentrée sur la vie qu'elle porte. Marie, elle est centrée sur l'enfant qui vit en elle. Et elle est entièrement remise à Joseph. Elle pourrait se dire, humainement, écoutez, moi je suis la mère de Dieu quand même, je porte Jésus, le Messie. Donc c'est moi qui gère ma vie. Mais en fait, non. Elle se remet entièrement, je caricature, mais ça nous aide un peu à voir les choses, nos petits réflexes à nous. Elle se remet dans les mains de Joseph, qui lui était un homme juste, c'était un grand, mais c'était un pécheur, un homme simple, comme vous et moi. Pour le coup, nous, on peut complètement s'identifier à Joseph. Vous voyez, Marie, l'Immaculée Conception, ça met quand même une petite barrière quand même. Mais Joseph, non, Joseph, il est comme nous. C'est pour ça qu'on peut beaucoup l'aimer. Et bien Marie se remet complètement dans l'autorité de Joseph. Elle fait confiance que, puis elle le sait, elle l'a vu, que le Seigneur a mis Joseph à ses côtés pour elle, pour la garder et pour garder l'enfant. Du coup, elle est en confiance. Elle peut être complètement concentrée sur Jésus et sur le mystère de la vie qui arrive et de ce mystère incroyable de Dieu qui se fait chair. Donc Joseph se retrouve avec l'autorité sur la Sainte Famille, alors qu'il est le plus pauvre des trois. Ça, c'est les mystères de l'autorité dans la vie religieuse. Dans notre communauté, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais le supérieur exercera l'autorité à la manière de Joseph. Ben, quand vous réfléchissez deux minutes à l'autorité qu'avait Joseph, il avait autorité sur Dieu lui-même et la mère de Dieu. Ben, vous vous sentez un peu petit. Hein. Voilà. Donc analogiquement, quand vous êtes supérieur, vous exercez l'autorité face à des personnes qui portent en elles le mystère de Dieu. Donc ça remet la balance, vous voyez, ça nous purifie un peu de nos petits réflexes de chef. Vous voyez, Joseph, il n'exerçait pas l'autorité de chef de famille comme un chef. Vous me suivez. C'était avec toute une délicatesse et une contemplation du mystère de Dieu quotidienne. Vous voyez, là, on a beaucoup de choses là dans le mystère de la Sainte Famille qui doit aussi beaucoup nous encourager pour les familles chrétiennes. Vous voyez, c'est aussi ça, ce mystère qu'on vit dans la famille chrétienne. Ce mystère qui se vit au sein de la Sainte Famille. Et ça, c'est Marie qui, par sa délicatesse de cœur, laisse à Joseph toute sa place. Parce que pour Joseph, il n'allait pas... faire de la place. Quoi. Du coup, c'est moi le chef, là. Enfin, vous voyez, quand on est face à la Mère de Dieu et à Jésus, je pense que... si Marie ne lui avait pas laissé de place, il ne l'aurait pas prise. Hein. Donc, il y a toute une histoire d'effacement mutuel, là, de pauvreté, qui est vraiment très belle à contempler. Donc je vous encourage beaucoup à prier là, ces jours-ci, à contempler le mystère de la Sainte Famille dans les rapports mutuels entre Joseph et Marie, en présence de Dieu fait chair, la parole de Dieu encore muette, dans la présence de ce petit nourrisson qui ne peut que vagir. Mais c'est impressionnant, vous pensez que la parole de Dieu incarnée vagit. C'est étonnant, oui, Dieu a voulu passer par là pour notre bonheur et notre édification. Donc Marie, à Noël, est toute à Jésus. Elle se remet dans les mains de Joseph avec beaucoup de confiance et de douceur. Et ça lui permet d'être concentrée sur la présence de Jésus et de se laisser faire par les événements dans une grande confiance, voyez, en Joseph et en Dieu. Et Marie est dans cette contemplation. Oui, quand même, c'est impressionnant ce qui se passe à Noël. Elle est quand même pas mal bousculée pour une jeune maman sur le point d'accoucher, là. Et on dit oui, on sait, on connaît l'histoire par cœur. Voilà. Mais mettez-vous à la place, quoi, d'une jeune femme enceinte, 8 mois et plusieurs semaines, là. Monter à Dodane, traverser même 150 km, c'est pas beaucoup, mais enfin, à Dodane, allez-y. voilà, il y a quelque chose d'un abandon. Elle se laisse bousculer et en même temps, elle ne perd pas, on voit bien, hein, cette paix d'être toute à Jésus qui vient. Et je crois que c'est très bon aussi, quand on médite hein, ces mystères de Noël, de voir, d'essayer de demander à Marie hein, quelle était cette parole qu'elle méditait dans son cœur pour Noël. Et Dieu vient accomplir les Écritures. Il y a plein l'Évangile de Matthieu aime bien noter les Écritures qui s'accomplissent. Et c'est bon de comme recherche aussi, vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu accomplit toutes les Écritures. Jésus vient accomplir toutes les Écritures. Quelles sont les Écritures qu'il est en train d'accomplir? Et Marie méditait ces Écritures qui étaient en train de s'accomplir avec elle. Donc il y a cette place aussi de la mémoire. Vous voyez, je pense que c'est très important à noter aussi pour vous. Marie, en vivant ces événements très cruciaux, centraux de la vie, de Dieu qui s'incarne. Méditer cette parole en faisant mémoire aussi de la parole qu'elle portait. Vous voyez, le Magnificat montre à quel point elle était pétrie, sa mémoire était vivante de toute la parole de Dieu. Et pour nous, c'est bon de faire mémoire, vous voyez, que notre mémoire soit pleine des actions de Dieu et de la parole de Dieu. Et Marie vivait d'une mémoire vivante, vous voyez. Elle avait une mémoire en action. Non, je ne vais pas faire une analogie trop poussée avec l'ordinateur parce que ce n'est pas complètement adéquat. Mais il y a la mémoire vive et mémoire... Enfin voilà, il y a toutes ces différentes mémoires-là. Ben, il peut y avoir une mémoire très profonde chez nous qui n'est pas activée. Mais il peut y avoir cette mémoire vivante qui fait que ce qu'on vit fait écho avec ce qu'on porte. Et vice-versa. Oui. Et Marie était là, dans cette vie intense. Voilà, ce qu'elle vivait venait résonner avec ce qu'elle portait de la parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est des clés pour nous. Hein. Quand on vit la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, qu'on la mange régulièrement, vous voyez, qu'on la manduque, comme on dit, que tous les jours vous prenez votre part de parole de Dieu et que vous commencez à être à l'aise dans la parole, eh bien, votre vie va faire écho à la parole et la parole va faire écho à votre vie. Et c'est là que Marie nous apprend à vivre de la parole de Dieu. Et là, c'est très concret pour nous. Si vous voulez que Dieu vous parle, eh bien, mangez sa parole. Voyez. Et là, Dieu vous parlera à travers les événements que vous vivrez. Voyez. Parce que telle parole, moi, je me souviens toujours, là, un temps de carême, une année, je vivais un truc un peu difficile. Et trois fois dans la journée du mercredi décembre, j'ai entendu très fort, parce que c'était l'évangile du jour, « C'est maintenant le moment favorable. » C'est le début du carême, là. « C'est maintenant le moment favorable. » C'est répété plusieurs fois dans la liturgie. Ben, ça a fait écho avec ce que je vivais pour que je prenne la bonne décision et que j'aille voir la personne à qui il fallait que je parle en face, quoi. Mais voilà, y avait cette attente, vous voyez, de la parole. Donc, creusez en vous la soif de la parole pour que la parole puisse faire écho à ce que vous vivez. Alors là, c'est les périodes douces, si on peut dire ça comme ça, et encore relativement, avec l'âne, c'est un peu pas forcément très confortable, mais arrive très vite, comme on a vu aujourd'hui avec la fête des Saints Innocents, les moments plus douloureux que Marie va être appelée à traverser. Il y a déjà donc les Saints Innocents, c'est la première intervention un peu sanglante au début de la vie de Jésus, la première conséquence de la venue du Seigneur qui vient provoquer par la main d'Hérode le sanguinaire, la mort de tous ces jeunes enfants. Et puis il y a aussi la présentation de Jésus au temple où Marie et Joseph donc, vont présenter l'enfant Jésus qui avait 40 jours au temple. Et ils vont rencontrer notamment le vieillard Siméon, qui va faire cette prophétie à la Vierge Marie. Alors, je vais vous trouver le passage. Donc c'est en Luc 2. Verset 33. Donc déjà, juste avant, pour votre culture chrétienne, le cantique que l'Église universelle chante tous les soirs accompli vient des lèvres de Siméon. Donc c'est le cantique juste au-dessus là. « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Le vieillard Siméon attendait la venue du Messie. L'ayant vu, il peut partir en paix. Et c'est la prière que toute l'Église chante le soir avant d'aller se coucher. Voilà, on peut se coucher en paix, dans la paix du Seigneur, parce que nous avons vu le salut de Dieu. Et ensuite, il dit cette prophétie à Marie. Donc son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui, de Jésus. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Voyez, première annonce d'une souffrance pour Marie, d'un mystère de douleur que Marie va être appelée à vivre avec cette mission d'être la mère de Jésus. Deuxième moment douloureux de l'enfance de Jésus, enfin, ce que l'Évangile nous rapporte, C'est plus tard, quand Jésus a 12 ans, vous connaissez bien ce moment, cet épisode, je pense, donc lors d'un pèlerinage à Jérusalem, Jésus reste au temple à l'insu de ses parents, et ses parents vont le chercher pendant 3 jours sans le trouver, jusqu'à ce qu'il le trouve au temple. Donc ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit « Pourquoi donc me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Il y a encore un moment très fort où Marie a la simplicité d'exprimer son angoisse à son fils, au nom de Joseph d'ailleurs. C'est pas Joseph qui parle, hein. C'est intéressant. Elle exprime leur angoisse. Et c'est très, très intéressant aussi de voir que c'est au bout de 3 jours qu'ils retrouvent Jésus au temple et que Jésus leur parle de son Père du ciel. Il y a quelque chose là qui annonce le mystère aussi de mort et de résurrection du Christ, où pendant 3 jours, le Christ sera au tombeau, caché aux yeux des hommes, perdu. Parce qu'une mère, enfin des parents qui cherchent dans une foule immense dans la ville de Jérusalem un jour de pèlerinage de Pâques, leur fils de 12 ans, au bout de 3 jours, quelle mère ne s'est pas dit « mon fils est mort » ? Vous voyez, il y a cette angoisse mortelle qui étreint le cœur de Jésus, de Joseph et de Marie, qui annonce, qui quelque part prépare le cœur de Marie à la mort de Jésus. Et Jésus, a priori, comme ça, n'est pas très tendre, hein, d'ailleurs, quand il leur répond « Pourquoi me cherchiez-vous ? » Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, il a fait une fugue, il s'émancipe. » Mais il y a quelque chose de plus profond, d'ailleurs. C'est bien plus profond. Il leur révèle aussi la mission. À 12 ans, pour un juif, c'est la maturité. Un garçon à 12 ans est un adulte qui peut prier comme les hommes, avec les hommes à la synagogue. Donc, il affirme qu'il rentre là dans une autonomie propre. Et donc, il parle de son père. Il annonce là, il dit clairement à Jésus, à Joseph et Marie que la maison de son père, c'est le temple. Et donc, voilà, il commence déjà sa mission. Et ce qui est très beau, c'est de voir qu'ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire, mais que Marie gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Vous voyez, retenez bien ça, c'est récurrent dans la vie de Marie. Elle ne comprend pas, mais elle garde dans son cœur. Elle ne récrimine pas, elle ne dit pas « Ouais, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu veux m'expliquer ? En fait, tu pourrais pas être plus clair en 3 points, 1, 2, 3, thèse, synthèse, conclusion, là, voilà, par moi, moi j'ai besoin qu'on me parle clair, quoi. » Et non, elle dit pas ça, elle revendique rien. Elle comprend pas, elle garde, et ça fera son chemin jusqu'au temps où Dieu donnera sa lumière. Et les choses vont s'éclairer en leur temps. Ça, c'est très concret pour nous, hein. On a du mal hein, à rentrer dans le temps, enfin de voir que le temps est un ami pour nous. Le temps est notre grand allié dans nos discernements, dans nos choix. En plus, on est d'une génération tout de suite maintenant. Je le veux, donc je le veux. Voilà, c'est tout de suite quoi. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il prépare notre cœur aux merveilles qu'il veut nous donner dans le temps. Et s'il ne nous le donne pas tout de suite, c'est que nous, sans doute, nous ne sommes pas encore prêts à recevoir la grandeur et la beauté des cadeaux que le Seigneur veut nous donner. Donc après, on continue à ne rien savoir sur les 30 ans de vie cachée de Jésus avec sa mère à Nazareth. On ne sait pas quand Joseph quitte ce monde. Mais on sait que, on comprend qu'a priori, quand Jésus commence sa vie apostolique, Marie est veuve, puisque Marie suit Jésus. Joseph aurait encore été de ce monde, elle serait restée avec Joseph. Mais comme Jésus, Marie suit Jésus, c'est dit par Jean, au moment de, de Cana, du mariage à Cana. Et Marie suivit Jésus à Capharnaüm. Donc après, pendant toute la vie, vous devez savoir aussi ça, la vie apostolique de Jésus, on parle peu de la Vierge Marie. Parce que vous, comme ça, vous pouvez dire les deux moments principaux, alors je parle surtout de l'évangile de Jean, mais c'est surtout là où on voit la Vierge Marie, les deux grands moments où on parle de la mère de Jésus, les noces de Cana, et au pied de la croix. Voilà. Et ce qui est très impressionnant, c'est que ces deux moments, c'est comme le début et la fin, l'alpha et l'oméga de la vie apostolique de Jésus, c'est les deux moments où Jésus appelle sa mère femme. Donc là, on rentre dans une autre dimension de la Vierge Marie, qui est sa coopération, sa place active auprès de son fils, comme femme. Et Jésus qui nous révèle Marie comme étant femme, nous ouvre vraiment un nouveau regard sur sa mère. Enfin, c'est un grand chapitre, hein. On ne va peut-être pas avoir le temps de tout faire, mais... où il lui montre la place qu'il lui donne dans son travail à lui, dans sa mission. À Cana, c'est sur l'initiative de la Vierge Marie que Jésus révèle sa gloire. C'est parce que Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, que Jésus fait quelque chose. Et encore, vous me direz, ouais, mais faut voir comment il lui répond. Ouais, mais il lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Enfin, moi, vous, à sa place, à la Vierge Marie, je serais allée me rasseoir, hein. Puis point barre, hein. Ben non. Elle a compris. Parce qu'il, voilà, on n'a pas le ton, on n'a pas la manière dont ils se sont parlé, hein. On a juste la conclusion. Marie est allée trouver les servants et est allée leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, vu, comme ça, quand vous lisez le texte, là, donc c'est en Jean 2, vous avez, quand vous lisez honnêtement, vous dites, mais c'est contradictoire, ce truc-là. Alors, il y a, voilà, les éternelles traductions de l'expression « Femme, que me veux-tu »« Quoi entre toi et moi ?» Enfin, voilà, c'est un lieu exégétique très compliqué. Mais a priori, c'est quand même pas une expression... c'est une expression qui dit pas « Oui, j'ai parfaitement compris ce que tu me demandes, je vais m'en occuper. Enfin, » c'est pas exactement ça qu'il lui dit, a priori. Mais c'est comme si Jésus se laisse bousculer par la demande de la Vierge Marie. « Mon heure n'est pas encore venue, mais ta hâte... Parce que tu le désires, je vais agir. » Et Marie vient provoquer Jésus à agir, à accélérer le processus, vous voyez, à déclencher, alors c'est peut-être un peu fort comme expression, mais la manifestation de la gloire de Jésus. Et c'est vraiment direct, hein. « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Et puis, en plus, elle ne dit pas, bon, il va s'occuper, il va s'en occuper. Elle ne précise pas, elle laisse Jésus maître de la situation. Elle indique, elle met en confiance les servants par rapport à Jésus. Donc, elle est vraiment l'intermédiaire qui facilite, voyez, l'accès des servants à Jésus et qui vient comme mendier à Jésus son intervention. Donc là, il y a vraiment un rôle d'intercession de la Vierge Marie qui est très fort. Et donc, on retrouve sous un autre mode à la croix, en Jean 19. Jésus est condamné, crucifié, ses vêtements sont partagés. Et en Jean 19, 25, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Alors, de la part d'une sœur de Saint-Jean, nous, c'est un peu un texte fondateur chez nous, donc on pourrait parler, faire des retraites entières sur ces quelques versets. Donc, je ne vais pas le faire, parce qu'on n'a pas le temps, puis ce n'est pas l'objet non plus. Mais juste quelques petites choses, parce que c'est un lieu central pour découvrir que Marie C'est pas juste parce qu'elle est la mère de Jésus que pieusement on la considère comme notre mère, parce que Jésus, c'est notre grand frère et qu'on a le même père. Voilà. C'est d'abord parce que Jésus nous a donné sa mère à Jean et Jean à sa mère. Et en Jean, c'est toute l'Église. Jean représente les disciples, représente toute l'Église. Et Marie découvre là une nouvelle maternité que Jésus lui demande de porter. Vous voyez, Marie est en train de perdre son fils. Alors là, vous vous reprojetez à l'Annonciation. L'ange a promis à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Fils du Très-Haut, qui va régner sur le trône de Jacob, de David, à jamais. Et là, elle contemple son fils, humilié, crucifié, bafoué, qui va mourir. Contradiction ? Elle est là, debout, debout. Contrairement à toutes les peintures de la... Vous voyez, il y a beaucoup de peintures qui nous la présentent très belle. Vous voyez, Van der Weyden, là, couché comme son fils, voilà, dolente, là. Oui, c'est beau, mais c'est pas l'Évangile. Marie est debout au pied de la croix. Donc il y a une force en elle, d'une foi qui voit au-delà du mystère, qui voit au-delà des apparences, de l'horreur qu'elle voit sous ses yeux, qui ne comprend pas, mais c'est vraiment récurrent chez Marie. Si elle s'en tient à ce qu'elle voit, c'est le scandale. Mais elle croit. Il y a un mystère d'au-delà de ce qu'elle voit. Et Jésus qui meurt, son fils qui est en train de mourir sur la croix, son fils unique, bien-aimé, que Dieu lui a demandé d'accompagner, de mettre au monde, lui demande de prendre Jean comme fils. C'est un échange pas très cool. Hein. Enfin, Jean contre Jésus, vous y perdez au change, hein, quand même. Donc là, il y a quelque chose d'un mystère de maternité, d'une nouvelle maternité pour la Vierge Marie, qu'elle reçoit comme mission personnelle à la croix. Et c'est là que Marie devient notre mère, à la croix, au cœur de ce mystère de rédemption, où Jésus vient donner toute sa vie, tout son amour pour nous. Et Marie... Enfin, Marie est là... cette nouvelle Ève, vous voyez, qui vient travailler à l'œuvre du nouvel Adam. Donc Marie est emmenée par le Seigneur, hein, bien plus loin que ce qu'elle discerne elle-même. Et il y a un mystère qui se passe à travers elle, qui est plus grand que ce dont elle a conscience. Le Seigneur la prend, vous voyez. Je crois que pour nous, c'est important aussi de voir ça, c'est que dans ce qui nous arrive, ce que le Seigneur nous demande de vivre, le Seigneur se sert de nous aussi. Il nous envoie en mission au-delà de ce que nous-mêmes pouvons discerner. Et le Seigneur veut nous, comme chrétiens baptisés, veut se servir de nous pour enfanter nos frères et sœurs à la vie divine, et souvent malgré nous. Et parfois on porte des choses, on souffre, vous voyez, on a l'impression de traverser des épreuves difficiles, mais c'est pas forcément pour nous, ça peut aussi être pour d'autres. Il y a un mystère dans l'Église, hein, où on peut aussi porter pour l'Église, porter pour nos frères, sans que le Seigneur nous donne le décodage. Et c'est là qu'une vie de prière aussi, une vie d'union avec le Seigneur est capitale, parce qu'on ne peut vivre et traverser ça qu'unis à Jésus. Alors pour continuer notre petit parcours, ça ne s'arrête pas à la croix bien sûr, il y a la résurrection. Donc on ne nous raconte pas d'ailleurs, c'est un grand débat, d'apparition personnelle de Jésus ressuscité à sa mère. Vous regarderez bien, mais ce n'est pas raconté dans l'Évangile. Jésus apparaît aux disciples, apparaît personnellement à Pierre, nous est-il dit, même si on ne nous le raconte pas. Il apparaît à Marie-Madeleine, mais il n'apparaît pas à la Vierge Marie. Enfin, en tout cas, l'Évangile ne nous le dit pas. Donc on peut se dire, ben voilà, la foi de Marie n'avait peut-être pas besoin de voir Jésus ressuscité. Donc il y a quelque chose d'une force, voyez, de la foi de la Vierge Marie. La tradition aussi nous dit que le samedi saint, voyez, au moment où les apôtres sont écrasés par la mort de Jésus en croix et sont accablés par ce qu'il se passe, la tradition nous dit que la foi de l'Église est comme toute concentrée dans le cœur de Marie. Marie vient, c'est le mystère du samedi saint qu'on vit dans l'Église, tous les samedis saints. C'est auprès de Marie qu'on peut vivre le samedi saint, vous voyez, ce jour bizarre où il ne se passe rien, à part les préparatifs pour la vigile pascale, mais qu'on est censé vivre dans le rien, vous voyez, dans le pas de messe, pas de voilà, il ne se passe pas grand-chose. Jésus est au tombeau, voilà, il y a un cadavre au tombeau, et on attend la résurrection, mais c'est difficile d'attendre la résurrection. Il n'y a qu'avec Marie qu'on peut attendre la résurrection. Donc il y a cette force intérieure de la Vierge Marie, qui est notre refuge aussi, qui nous est donnée comme refuge. Et puis après, il y a toute cette Église naissante, où on voit la dernière fois où on voit la Vierge Marie avec les apôtres, c'est au Cénacle, priant pour la venue de l'Esprit-Saint, qui vient ouvrir tout le livre des Actes des Apôtres avec Marie. Voilà. Ils étaient tous dans la chambre haute avec Marie, invoquant l'Esprit-Saint, demandant à l'Esprit-Saint de venir sur l'Église. Et là aussi, c'est très très beau de voir ça. Marie, mère de l'Église naissante, prier avec elle, supplier l'Esprit-Saint avec elle. Donc elle est vraiment mère de notre prière. Voyez, elle est vraiment aussi là pour nous apprendre à supplier l'Esprit-Saint de descendre sur l'Église. Puis je voudrais terminer en vous encourageant à prendre Marie chez vous. Comme Jean. Jean, il n'a pas eu le choix parce que c'était un désir de Jésus à la croix. Donc, il a pris chez lui Marie comme désir de Jésus. Mais Jésus nous le... Enfin, s'il l'a demandé à Jean, c'est qu'il nous le demande à chacun de nous. Et juste un petit encouragement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça peut être une belle manière de commencer 2014. C'est de se donner à la Vierge Marie. Parce qu'en fait, pour être sûr de ne pas faire de bêtises dans notre vie, c'est de se mettre dans les mains de quelqu'un qui ne fait pas de bêtises. Donc quand vous vous donnez à la Vierge Marie, vous pouvez être sûr que quoi que vous fassiez, elle va faire quelque chose de bien avec ça. Mais quand j'ai découvert que la Vierge Marie pouvait réparer toutes mes bêtises, alors croyez-moi, j'utilise à fond. Vous voyez. Bon, on fait ce qu'on peut, voilà. On essaye quand même de ne pas faire trop de bêtises. Mais il nous arrive tous, à l'un ou à l'autre, de dire un mot de trop, de pas faire ce qu'on devrait faire, parfois d'aller trop, de manquer, je sais pas, on a tous nos petits défauts, quoi. Bah régulièrement, c'est Saint-Louis-Marie Grimont-Montfort qui m'a appris ça. En fait, on lui donne tout. Et la consécration à la Vierge Marie, c'est-à-dire que vous vous consacrez personnellement, vous vous remettez dans les mains de la Vierge Marie. Et c'est Saint-Louis-Marie qui utilise ces images pas possibles. Là, vous voulez offrir à Jésus tout ce que vous avez. C'est une vieille pomme fripée, vous voyez, de la fin de l'hiver, là, qui a passé tout l'hiver dans la cave. Vous n'avez que ça comme cadeau à offrir à Jésus. Ouais, c'est un petit peu piteux. Vous le donnez à la Vierge Marie qui va le mettre sur un très beau plateau d'argent. Et ça, voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc Marie, elle est là pour récupérer nos pauvres petites bêtises, quoi. Et puis, une des très belles images que Saint-Louis-Marie utilise, c'est que Marie, c'est comme le moule de Dieu. Elle ne sait faire que des Jésus. C'est un moule, vous voyez. Vous mettez je ne sais pas ce qu'on met d'ailleurs là-dedans, là, du plomb fondu ou je ne sais pas quoi. Et donc vous vous mettez dans le moule de la Vierge Marie et elle vous fait un petit Jésus. Voilà. Donc Marie, elle sait faire que ça. Si vous vous donnez à elle, eh ben elle va faire que plus ça va aller, plus vous allez ressembler à Jésus. Parce qu'elle vous moulera en Jésus. C'est une image un peu bizarre parce que c'est du 17e siècle. Mais Saint-Louis-Marie est un bon... Alors avec sa manière fleurie de parler de son époque, mais c'est un vrai fils de la Vierge Marie qui vous fait découvrir les secrets d'une vie avec la Vierge Marie. Et que vous mettre personnellement dans les mains de la Vierge Marie, vous pouvez être sûr que quoi que vous fassiez, avec Marie, il va en sortir du bon. Jésus va utiliser ce que vous faites, même vos bêtises. Donc on peut vivre très... Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on est en paix profonde, profondément. Que le Seigneur, si vous lui avez donné toute votre vie, tout ce que vous ferez de bien, ce que vous ferez de pas très bien, il va utiliser tout ça pour sa gloire. À condition de tout passer par la Vierge Marie. Donc c'est là aussi où elle peut vous aider au quotidien, voyez, de vraiment découvrir qu'elle est votre amie et qu'elle veut vous apprendre à connaître Jésus. Parce que là, quand vous dites Marie, elle dit Jésus. Elle ne sait dire que ça. Donc, elle peut vous conduire qu'à Jésus. Donc c'est pas, parfois on dit, ouais, mais la Vierge Marie, c'est un chemin détourné, moi je vais à Jésus direct. Bah essaye, tiens. En fait, c'est plus direct de passer par le petit chemin de Marie. C'est plus sûr. C'est le raccourci qui est plus sûr que d'essayer par ses petites forces à soi tout seul. Donc voilà, je vous encourage de tout faire avec Marie. Et de relire avec beaucoup de... et de... d'attention tous les passages où, l'Évangile nous parle de, de Marie pour essayer de voir comment elle réagit à la parole de Dieu, comment elle réagit à la parole de Jésus. Et quand Jésus a l'air de la rabrouer, en fait, elle a confiance. Elle avance. Et même si elle ne comprend pas, elle croit. Ça, c'est, je crois que c'est vraiment une des grandes attitudes de la Vierge Marie. Elle ne cherche pas à tout comprendre avec son intelligence rationnelle et à mettre les choses dans les cases. Elle comprend avec le cœur. Elle aime et alors elle comprend. Et c'est par l'amour qu'elle rentre dans les desseins de Dieu sur elle. En gros.